On continue nos échanges toujours sur Twitch, toujours dans cette émission Demo Stream. Je propose que nous continuions à discuter de la démocratie, de son avenir et de la mobilisation. Je demande à me rejoindre sur ce plateau les cinq invités suivants. On va commencer par... Il est politologue, il est chercheur à Paris 1, Panthéon Sorbonne, éminent spécialiste de la démocratie. Un tonnerre d'applaudissements pour Loïc Blondiaux. Loïc Blondiaux qui vient me rejoindre sur ce plateau ici. Et on continue avec la directrice de l'ONG Change.org, Aminata Dembélé. Pour continuer à discuter avec nous sur la question démocratique, j'invite la porte-parole des soulèvements de la Terre, Léna Lazare. On continue avec la porte-parole du collectif Démocratie Ouverte, la célèbre Priscilla Ludowski. Et enfin, pour continuer à discuter de ces questions, le réalisateur et notamment du documentaire Démocratie au pluriel sorti en 2018 et qui a réalisé cette année Utopie à retrouver sur France TV, Henri Poulain. Bonsoir à vous cinq, merci beaucoup d'avoir accepté de discuter avec nous de ces questions démocratiques qui nous agitent depuis le début de cette émission, qui, c'est pas cette émission qui a inventé le sujet, loin de là, nous on est que des témoins d'un débat qui nous agite depuis très longtemps. Loïc Blondiaux, vous avez entendu nos échanges jusque-là. Cette question démocratique, c'est une question qui est au cœur de vos travaux, de vos recherches, de votre enseignement à Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Est-ce que vous avez vu des évolutions ces dernières années dans la manière qu'on a de la penser, cette démocratie ?
Oui, beaucoup. Mais avant d'en venir au constat et aux évolutions, je voulais rectifier un chiffre qui a été donné tout à l'heure, qui est alarmant, selon lequel 2/3 de jeunes, selon une enquête européenne, seraient favorables à un pouvoir fort et en particulier à un pouvoir militaire. En fait, la proportion, c'est 1/3. Mais c'est déjà suffisamment inquiétant.
Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais.
Et en fait, on s'aperçoit que ceux qui sont le moins confiants dans la démocratie et qui sont le moins attachés à la démocratie, ce sont quand même les catégories des plus jeunes de la population et ce à peu près dans tous les pays. Donc ça doit nous interroger et on doit essayer d'expliquer ce constat. Il a été évoqué la question de l'efficacité. C'est vrai que cette question de l'efficacité, notamment au regard du changement climatique et du dérèglement de notre environnement, est une question centrale et on peut poser la question de l'efficacité de la démocratie. Mais je voulais être moins alarmiste que madame sur ce chiffre. Alors les évolutions, oui, elles sont considérables. En 1990, au moment de la chute du mur de Berlin, on avait l'impression que la démocratie était installée pour toujours. Mmh. Aujourd'hui, on a perçu à quel point elle était fragile. On a vu des régimes basculer en Europe. On a vu aux États-Unis le 6 janvier une grande démocratie, peut-être la plus grande de toutes, faillir, s'effondrer. Donc il y a une très grande fragilité et cette fragilité, elle peut s'expliquer de différentes manières. Elle peut s'expliquer par une partie, pour partie, par la désaffection des citoyens vis-à-vis d'un régime dans lequel ils ne se sentent plus représentés, dans lequel ils n'ont plus confiance, par rapport à des représentants dont ils ont le sentiment qu'ils ne servent pas l'intérêt général. Mais on peut s'interroger sur l'adhésion et l'attachement de nos élites, ou en tout cas d'une partie d'entre elles à la démocratie. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, ce qui prévaut chez nos gouvernants, c'est le sentiment qui a été évoqué récemment, selon lequel ils n'ont pas besoin du peuple pour gouverner, parce qu'ils savent beaucoup mieux que le peuple ce qui est bon pour lui. Ça s'appelle l'épistocratie, c'est le gouvernement des experts. Et ce qu'on voit aujourd'hui en France, c'est se restreindre tous les espaces de délibération. Et tous les moments de délibération. Et la réforme sur la retraite a été une forme de laboratoire absolument incroyable. Non seulement la démocratie sociale a été court-circuitée, mais la démocratie parlementaire elle-même a été court-circuitée. Et où délibère-t-on aujourd'hui de l'intérêt général ? C'est une vraie question. Et mon inquiétude extrêmement forte, c'est que avec les crises multiples, diverses que nous allons devoir affronter, et la première d'entre elles, c'est celle qui est liée à nos conditions de vie sur Terre, qui est liée au dérèglement du climat et à la destruction de la biodiversité. Ouais. Au nom de l'urgence, ces gouvernants en profitent d'un certain point de vue pour court-circuiter la démocratie. Et j'ai peur que nous allions progressivement, mais même de manière accélérée, vers de moins en moins de démocratie.
On va en parler de cette crainte que vous avez, voilà, et qui, à mon avis, est partagée. Mais on continue à se poser cette question. Henri Poulain, je me tourne vers toi, Henri. En 2018, dans ton documentaire Démocratie, tu posais le constat qu'on ne vit pas en démocratie, mais qu'on essaye d'y tendre.
Enfin, le principe, c'est de dire que la démocratie, c'est pas un régime, c'est un principe. Et le principe, c'est le principe de l'égalité. Et considérer que chacun, chacune est à même de participer à la décision collective.
Ok.
Et sans restriction. Et dans la continuité de ce principe fondamental, fondateur de la démocratie au sens plein du terme, c'est la déconstruction, l'empêchement de toute forme de domination. La domination de l'homme sur la femme, du riche sur le pauvre, du blanc sur le noir, d'homo sapiens sur la nature ou sur le vivant. Et cette condition-là, si on l'observe, parce qu'elle s'exerce dans des communautés, dans des collectifs, c'est ce qu'on a tenté de documenter avec Utopie, à cet instant de respect fondamental du principe d'égalité, c'est aussi accorder à l'autre le fait qu'il est mon égal, ouais, totalement, que je ne suis pas ni inférieur ni supérieur, que le désaccord est le bienvenu dès lors qu'il peut être partagé, sans domination. À ce moment-là, l'intégralité des problématiques à lesquelles auxquels nous sommes confrontés est susceptible d'être solutionnée. Cette condition de l'égalité, si elle se poursuit, elle offre la possibilité à l'intelligence collective de s'exprimer, de la prise en compte de l'intérêt général réellement, indépendamment des rapports de force, de la hiérarchie, des verticalités. On peut observer chez les partis politiques, je ne nommerai pas radicalement à gauche, considérant que s'ils sont les porte-drapeaux de cette cause du peuple et de l'égalité, on peut observer dans les coulisses des modes de fonctionnement qui sont aux antipodes de ces principes, qui fonctionnent en fait sur la brutalité.
Tu parles de la France insoumise, là.
Je te
laisse. Tu as l'air d'en parler, en tout cas.
Mais c'est pas impossible, Toujours est-il que tous les partis de la Ve République fonctionnent quand même sur « il s'agit de faire émerger le meilleur d'entre tous, vraiment la meilleure, et tous les coups sont permis pour que ce soit le cas. »
D'accord.
Et ça me paraît effectivement problématique fondamentalement.
On continue à échanger ensemble et on va se diriger petit à petit vers la question des solutions à la crise démocratique. J'ai l'immense plaisir, mesdames et messieurs, de vous annoncer qu'on a un invité supplémentaire et un invité de marque, un invité exceptionnel qui est avec nous en visio. Je vous emmène du côté de Florence, en Italie, où nous allons retrouver le maire de Florence, Dario Nardella, qui nous a envoyé une petite vidéo d'introduction et après on le retrouve en visio dans cette émission. À tout de suite.
« 7 septembre, ce n'est pas un rassemblement, ce n'est pas une initiative de parti, c'est un rassemblement de milliers de personnes de toute l'Italie qui veulent construire, planifier et concevoir l'avenir. Nous prévoyons de continuer avec ce gouvernement pour les années à venir, mais il y aura des femmes et des hommes de la Ligue de toute l'Italie et d'autres pays. Ce sera une journée d'amitié, de politique, d'avenir. Il y aura des milliers de jeunes qui, dès la veille, se retrouveront de toute l'Italie pour discuter de l'école, de l'université, du travail, de l'environnement, de la culture. Et ensuite, ce sera le début d'une grande course où la Ligue sera protagoniste. Nous écrivons ensemble une page d'histoire, belle politique et vie en présence. Je vous attends.
C'est un message de Dario Nardella que nous retrouvons en visio tout de suite. Dans ce message, Dario Nardella, bonsoir, merci d'être avec nous en direct. On vous souhaite la bienvenue ici, en direct de Paris. Dario Nardella, vous annonciez dans cette vidéo que le week-end prochain, à Barcelone, vous allez réunir les responsables des plus grandes villes européennes avec l'idée de créer un réseau des villes européennes pour lutter contre le changement climatique, pour parler d'éducation et de formation. C'est quoi votre ambition, Monsieur Nardella ? Vous pensez que les villes peuvent faire mieux que les États ? C'est ça votre idée ?
Oui, merci avant tout pour cette invitation. Je voudrais remercier ma collègue et amie Anne Hidalgo et aussi les organisateurs, tout le monde, pour cette opportunité de parler avec vous. En fait, nous avons vendredi soir et samedi matin à Florence. Ce rendez-vous, ce summit des maires des grandes villes européennes comme Paris, bien sûr, mais aussi Budapest, Reykjavik, Rome, Naples, Barcelone, Zagabre, Istanbul. Et l'idée que j'ai partagée avec la maire de Paris, c'est exactement de donner un nouveau protagonisme aux maires européennes et spécialement aux villes européennes. Parce que nous avons besoin d'engager les communautés locales dans toute l'Europe pour pousser sur les partis européens et pour avoir une nouvelle politique pour l'Europe. Vous devez considérer que dans notre ville, nous avons les grands défis comme l'émergence climatique, comme l'immigration, l'inclusion sociale, la soutenabilité du développement durable de l'économie. Et c'est dans les villes que nous pouvons expérimenter des solutions nouvelles, que nous pouvons engager les communautés au niveau local, comme vous avez déjà souligné dans ce débat. Mais le problème, c'est que les villes doivent travailler ensemble. Nous avons besoin de construire un réseau des villes européennes, européistes et démocratiques pour combattre la culture du nationalisme, du souverainisme et du populisme. C'est une culture qui est pratiquement incompatible avec la culture européenne.
Dario Nardella.
Et si vous...
Ce que vous nous dites, c'est que pour vous, le niveau municipal est un niveau d'expérimentation extrêmement intéressant sur la question démocratique pour relever ces défis-là ?
Exactement. Parce que nous avons l'habitude de considérer la démocratie locale comme une chose différente de la démocratie nationale.
C'est vrai.
Mais c'est pas vrai, parce que c'est au niveau local qu'on peut expérimenter des modèles d'engagement, de participation des citoyens. Et c'est au niveau local que nous avons les problèmes plus grands. Par exemple, la transition climatique. Les villes européennes sont responsables de l'émission de 80% de l'anhydride carbonique. Sont responsables de la production de 80% des déchets. Et elles sont les consommatrices de 80% d'énergie disponible dans l'Europe. Et donc, c'est dans les villes qu'on peut changer les modèles de production et aussi des croissances économiques.
Dernière question pour vous, Dario Nardella. Nous qui sommes à Paris ici, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de vous à Florence ? Vous êtes le maire de Florence. Qu'est-ce que Florence a expérimenté ? Qu'est-ce qui marche chez vous en matière de démocratie et qui pourrait nous irriguer ici à Paris ?
Mais je pense que Paris est un exemple pour toutes les villes en Europe, bien sûr. Et je pense que la pratique de partager expériences concrètes, c'est la meilleure pour construire des modèles au niveau européen. Mais à Florence, nous avons expérimenté, par exemple, les marathons de la participation. Ce sont des journées entières d'engagement des citoyens dans les écoles, dans les espaces publics, dans les institutions, pour partager les décisions stratégiques sur la vie de la ville. Et je dois dire que la participation des citoyens dans cette marathon de participation est très dynamique, très utile, très positive. Et avec ces processus de participation, nous avons construit les programmes du gouvernement de la ville dans ces derniers 5 ans. On va finir et nous avons à la fin un moment de vérifier avec les citoyens des choses que nous avons réalisées grâce à l'engagement actif de la communauté locale.
Merci beaucoup. Dario Nardella, un tonnerre d'applaudissements pour Dario Nardella. Merci du fond du cœur d'être venu dans cette émission nous parler de cette expérience. Je retiens le marathon de la participation, j'adore. Voilà. Ça va continuer à irriguer nos discussions ici sur ce plateau. On continue à en discuter. Léna, quand tu entends parler du niveau municipal, toi, c'est quelque chose que tu trouves intéressant, vous, chez les Soulèvements de la Terre?
Oui. Bon, déjà, j'aimerais dire que sur ces questions-là, c'est pas des choses qu'on a débattues. On est une énorme coalition d'organisations, donc j'ai pas de mandat collectif pour parler au nom de toute la coalition.
T'inquiète, c'est à toi que je demande.
Voilà. mais c'est vrai que nous, on est un mouvement qui s'appuie sur les luttes locales contre les projets polluants et imposés. Et c'est assez intéressant parce que la plupart des habitants, lorsqu'ils se mobilisent, leur premier motif de mobilisation, c'est le déni de démocratie. Il se trouve que sur la plupart de ces projets, il y a des enquêtes publiques, et donc la plupart des habitants donnent leur avis donc, sur le projet, et dans la plupart des luttes, nous, sur lesquelles on se mobilise, les avis sont très négatifs. On pourrait parler, par exemple, de l'autoroute entre Castres et Toulouse, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, parce que Thomas Braille était dans un arbre devant le ministère de la Transition écologique, justement pour demander l'arrêt des travaux de cette autoroute qui est inutile. Sur Castres-Toulouse, typiquement, il y avait 90% d'avis négatifs à l'enquête publique. Pourtant, l'autoroute passe. Le projet passe en force. Et c'est quelque chose qu'on observe vraiment partout sur le territoire. Et en fait, via ces luttes-là, la plupart du temps, les habitants, ils essaient de reprendre du pouvoir sur leur vie. Et justement, ils essaient de mettre en place une démocratie directe à l'échelle locale. Et il y a une personne de Saillant qui est là. C'est un super exemple.
Oui, on en parlait tout à l'heure.
À Saillant. Et donc c'est vrai que nous, la dynamique municipaliste, c'est quelque chose dans laquelle on a vraiment envie de s'investir et qui est porteuse de sens pour nous.
C'est intéressant cette idée de se mobiliser au niveau local. Je me tourne vers toi, Priscilla Ludowski. Toi, on t'a connu, t'as un parcours intéressant. On t'a connu notamment au moment du mouvement des Gilets jaunes, qui était un mouvement national au sens premier du terme. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Tu es porte-parole de Démocratie Ouverte. Pardon?
Absolument pas.
Absolument pas.
non, mais j'ai travaillé beaucoup avec
Démocratie Ouverte. Ouais.
Donc je connais leurs travaux, mais je suis pas.
Alors explique-moi du coup, qu'est-ce que tu en penses toi quand tu entends parler de mobilisation citoyenne au niveau local?
En écho à ce que vient de dire Léna, avec Marie Toussaint qui est eurodéputée, on a écrit un livre qui relate une histoire par région de lutte contre les violences environnementales, dont ce cas de l'autoroute Castres-Toulouse où on y voit ce que moi j'observe et que je qualifie de verrou institutionnel, où systématiquement les mêmes acteurs locaux font blocage, où systématiquement les collectifs, que ce soit des collectifs d'habitants, d'associations ou même d'experts qui s'allient à ces collectifs-là pour justement faire la preuve de soit d'un dysfonctionnement, soit d'un crime avéré et documenté. Et parfois ces luttes durent de nombreuses années et où effectivement on se rend compte que ce sont les mêmes schémas qui sont reproduits systématiquement et où à chaque fois ils se heurtent aux mêmes obstacles les uns et les autres. Donc en plus de faire plaidoyer pour la reconnaissance des crimes environnementaux, ça démontre quand même un schéma qui se reproduit systématiquement à l'échelle locale.
D'accord. On continue à en discuter. Aminata, toi, tu travailles pour l'association qui s'appelle MEC.org. C'est pas une association.
Change.org.
C'est Change.org. Excuse-moi, ouais, j'ai confondu. Change.org. Je suis fatigué. Excuse-moi. Change.org, particularité dans la participation citoyenne, vous faites le pari, vous, de la pétition, et notamment de la pétition en ligne, qui est effectivement une modalité de mobilisation citoyenne. On se souvient du mouvement des Gilets jaunes. Priscilla, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, mais ce n'est qu'un exemple récent. En fait, la pétition, pour vous, ça peut être central dans le fait, pour les citoyens, de se saisir des outils démocratiques et de parler?
Oui, absolument. C'est vrai qu'avec Change.org, ce qu'on observe, c'est qu'on est devenu vraiment un acteur majeur de ces nouvelles formes de démocratie numérique. Et grâce à cette plateforme, les citoyens peuvent vraiment participer aux décisions politiques, mais surtout en dehors des phases électorales classiques, traditionnelles. Ils prennent la parole tout au long de l'année et engagent aussi un rapport direct avec les décideurs. Donc on a un outil qui permet aux décideurs politiques, institutionnels, entreprises, de répondre directement aux pétitions qui leur sont adressées et ainsi créer un dialogue. D'ailleurs, la maire de Paris a créé un profil sur Change.org pour répondre aux pétitions qui lui sont adressées.
D'accord.
Priscilla aussi a eu l'expérience via sa pétition que le président de la République a répondu aux 1 million de signatures de sa pétition. Mais après, à l'échelle locale, on voit aussi des initiatives fleurir pour protéger des espaces verts, mais aussi lutter contre des fermetures d'écoles. Et là, je pense à un exemple très parlant qui permet aussi d'inspirer sur qu'est-ce qui se fait à l'international. Donc j'ai un exemple de la ville de Mexico City,
ouais.
Qui avait fait participer ses administrés dans le cadre d'une consultation citoyenne et avait utilisé la plateforme pour inviter les citoyens à lancer des pétitions afin qu'ils puissent inscrire dans leur constitution des articles qui feraient l'objet de nouvelles mesures pour la constitution de la ville. Donc à partir de 5000 signatures, la personne à l'initiative de la pétition pouvait rencontrer un des membres chargés de la rédaction de cette constitution. À partir de 10 000 signatures, on pouvait rencontrer plusieurs membres et 50 000 signatures, l'ensemble des personnes en charge de la rédaction de la constitution.
Donc
c'est un exemple parmi tant d'autres qui permet de montrer comment on peut faire participer les citoyens au processus de la démocratie.
On continue à discuter, on ne va pas tarder à vous proposer à vous, la salle, de poser des questions à nos invités autour du plateau. Je me tourne, donc réfléchissez à vos questions, levez la main, il y a un micro qui va vous être apporté. Avant ça, je me tourne vers toi, Henri Poulain. On va regarder un extrait de ta dernière série qui s'appelle Utopie. Après démocratie, tu as créé Utopie et je reviens vers toi juste après.
Saraya kulakta kunang punja kaitandari kalyari nyukanchi kauna shutichiska apuguna nyukanchi ushaska tupu liangaita paktachiskanchichu manachu paktachiranchi nisha kangunama rikuchingawa kaitandari achum wanguringawa tandari sinjiangawa tandari Kushianga watandari, muskusha nyaupangma ringa watandari, ama achum chini nakunga watandari, ama achum kami nakunga watandari, ama achum pinya nakunga watandari, achum ushaita hapisha, chutachisha, sakina tandari, nyukan chilakpias, wawaguna chiyuaita hapisha, nyaupaktama hapisha rina achum, katisha rina achum chutachisha.
Merci Henri de nous donner la possibilité d'aller voir comment la démocratie peut s'expérimenter de cette manière-là à l'autre bout du monde. Pourquoi l'utopie ? Pourquoi ce titre ?
Alors c'est l'utopie avec un point d'interrogation, on interroge la question d'utopie,
ouais.
Ce sont des utopies concrètes. Alors en l'occurrence Sarayaku, ça se passe en Amazonie équatorienne, au nord de l'Amazonie, une population de 1500, une communauté de 1500 habitants, qui depuis des temps immémoriaux, mais de manière un peu plus structurée depuis une trentaine d'années, pratique une sorte de démocratie directe. Avec une ingénierie assez complexe de démocratie directe. C'est pas juste de se réunir pour discuter et décider ensemble, c'est tous les six mois, l'ensemble de la communauté se réunit pendant quatre jours et quasiment quatre nuits pour débattre de toutes les questions. Et puis, sur chaque thématique, éducation, santé, économie, autonomie financière, des commissions qui réunissent la quasi-intégralité également de la population se réunit tous les trois mois. Donc c'est une activité extrêmement active. Et une démocratie totalement directe au sens où jeunes et anciens, bien sûr femmes et hommes, mais parfois également des étrangers de passage, participent à ces temps d'assemblée, de discussion. Mais également, et c'est une singularité qui est aussi propre à l'anthropologie, à la singulière de ce peuple, mais également l'ensemble des êtres vivants. C'est-à-dire que c'est pas juste l'espèce sapiens qui est convoquée, la communauté, mais également les plantes, les animaux, et c'est pas de la coquetterie ou c'est pas un récit un peu fantasmé, c'est une réalité vécue comme telle. C'est également au nom de l'intégralité du vivant qu'ils s'y réunissent pour décider collectivement. Et d'ailleurs, les êtres vivants, autres non doués de parole,
ouais,
leur communiquent leurs désirs par le biais de rêves et se réunissent la nuit aussi. D'accord. Pour échanger sur ce qu'ils ont reçu dans le cadre du rêve. Et c'est très sérieux. Hein, c'est
non, mais c'est intéressant.
Et tant et si bien que la décision collective intègre l'intégralité du vivant. Le distinguo de nature-culture n'est pas fait. Descola l'a bien raconté et le distingue bien. On est dans une harmonie assez exemplaire.
On a parlé de pétitions, on a parlé d'utopies concrètes, on a parlé de mouvements locaux, on a reparlé rapidement aussi du mouvement des Gilets jaunes. Je me tourne vers vous, Loïc Blondiot. Quand vous entendez toutes ces propositions, ces suggestions, ces idées, ces innovations, est-ce que vous y voyez des solutions ou est-ce que c'est une douce utopie que de voir des solutions ?
Avant de revenir à une esquisse d'inventaire des solutions, je voudrais revenir sur ce passage qui me paraît très très important.
Ouais.
plein de titres. D'abord, pour dire que le Sud peut nous apprendre beaucoup sur la démocratie. C'est-à-dire que, effectivement, l'atrophie de nos institutions, elle amène à penser qu'il faut penser différemment les manières de vivre ensemble. La deuxième chose, c'est que la démocratie, c'est pas un sport de spectateurs, et nous l'avons transformé en Occident en un sport de consommateurs et de spectateurs. On consomme de la politique, on ne fait qu'élire. On ne l'expérimente pas, cette démocratie. La démocratie, ça doit être une forme de vie, ça doit être des attitudes, ça doit être des compétences, ça doit être la capacité à prendre la parole, la capacité à écouter l'autre, ça doit être des valeurs, considérer que l'autre est un égal et effectivement lui faire une place dans la discussion. Or, ça a été dit, sur ce plan-là, aujourd'hui, nous avons régressé. C'est-à-dire que la polarisation générale de l'opinion, le fait que l'autre soit considéré comme un ennemi, comme un adversaire, nous empêche, plutôt que comme un adversaire qu'on doit essayer de convaincre, nous empêche d'être en démocratie. Donc je trouve que cet extrait est très parlant, et ce que disait Henri sur la nouvelle frontière de la démocratie, la nouvelle utopie qui me paraît absolument essentielle, c'est la question aujourd'hui de la représentation de la nature et des non-humains dans nos dispositifs délibératifs. Je participe en ce moment à une expérience absolument fascinante d'Assemblée populaire du Rhône, où on a demandé à un groupe de citoyens de réfléchir justement à cette question. Comment représenter le Rhône? Comment organiser finalement sa gouvernance à partir de modes démocratiques? Et c'est vraiment quelque chose qui me paraît absolument central. Le fait aujourd'hui que nous ne représentions que des intérêts humain à court terme dans nos systèmes de gouvernance est absolument catastrophique, accélère la catastrophe qui arrive. Alors, pour répondre à ta question très rapidement, parce que je sais qu'après, j'aurai plus la parole.
Non, il y aura des questions de la salle après, mais il va falloir qu'on conclue, tu as raison.
Ce qui est formidable dans ce moment d'incertitude, de crise et de fragilisation de la démocratie, c'est qu'il y a un retour de l'imagination démocratique et on a plein d'options possibles. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a plein d'options sur la table, on peut même les combiner. La première option, c'est tout changer et c'est changer de constitution. Et il me semble qu'il serait urgent, parce que notre constitution, elle nous enferme dans un modèle de démocratie, il serait urgent aujourd'hui de réfléchir à ce que pourrait être un processus constituant qui soit réellement démocratique, qui fasse participer tous les citoyens. On a le Chili qui nous a donné l'exemple de ce que ça pouvait donner. Malheureusement, évidemment, le référendum à l'issue a été défavorable. Deuxième option, c'est l'option locale, c'est l'option municipale, c'est l'option communale. Il y a plein de gens qui se disent, de toute façon, c'est foutu à l'échelle nationale, on va refaire la démocratie à l'échelle locale. Et pour répondre à une question qui a été posée dans la première partie par Aude, je crois, aujourd'hui, il y a 60 municipalités au moins qui sont issues de listes citoyennes, y compris dans des villes de taille significative. Je pense à Poitiers, je pense à Annecy, qui sont des villes qui essayent d'expérimenter de nouvelles formes de gouvernance, et ça me semble très intéressant. Il y a la voie plus modeste de la réforme. Je crois qu'on pourrait changer beaucoup de choses en introduisant la proportionnelle. Je crois qu'on pourrait changer beaucoup de choses en réfléchissant à ce que pourraient être des moyens de lutte contre la concentration des médias. Pour faire écho à ce qui a été dit tout à l'heure, il est absolument anormal que 10 milliardaires, 10 oligarques possèdent 90% des médias dans ce pays. Il faut vraiment mettre cette question sur la table de manière définitive.
Donc, c'est pas que la Constitution.
Voilà, c'est pas que la Constitution, c'est le financement des élections. Hein. Tout ça, ce sont des réformes qui pourraient avoir, à mon avis, une importance et produire des changements considérables. Et puis la dernière voie, c'est la voie dans laquelle... Alors, il y a la voie référendaire. Moi, je pense très sincèrement que l'heure est venue d'avoir un vrai référendum d'initiative citoyenne en France. L'exemple suisse a été donné. Ça pourrait s'expérimenter à l'échelle locale, mais ça doit pouvoir s'expérimenter aussi à l'échelle nationale. Aujourd'hui, on a un pauvre RIP, référendum d'initiative partagée, qui est une caricature, qui est quelque chose d'absolument incroyable. Et puis la dernière voie, c'est la voie délibérative. Et c'est pour ça que moi, je m'engage, je milite, à l'image de la Convention citoyenne pour le climat, c'est démontrer qu'en associant les citoyens à la construction de la décision, on produit des décisions plus justes, plus juste, c'est impératif, parce que la démocratie représentative telle qu'elle fonctionne, elle est fortement influencée par ceux qui ont déjà le pouvoir dans la société, le pouvoir économique à travers les lobbies, et par ceux qui votent. Et ceux qui votent, ce sont les catégories les plus âgées, il faut dire les choses, et ce sont les catégories les plus favorisées de notre population. Notre démocratie représentative est biaisée sur le plan sociologique. Et donc, introduire des dispositifs fondés sur le tirage au sort permet d'avoir une grande diversité d'expériences et d'aller chercher la parole de ceux qui, dans la démocratie représentative, n'ont pas de voix, n'ont pas de représentation.
On continue.
Donc, multiplions les conventions citoyennes. Après, j'arrête, je vous promets.
Non, mais c'est ça qui est génial avec toi.
C'est mon habitus de prof.
Mais non, mais t'as raison, parce que t'as plein de
ça.
Merci pour les pistes.
Pour mettre les choses sur la table. Et voilà, cette voie délibérative, elle me semble absolument essentielle. Et elle s'expérimente aujourd'hui dans certaines villes. Il y a Paris, il y en a d'autres. Et c'est vraiment très intéressant.
Je m'en voudrais à mort de faire une émission. Ah, bah voilà, un applaudissement pour Luc Blondiaux. Merci vraiment pour ces pistes de réflexion. Ça nous ouvre l'esprit. Je m'en voudrais à mort de faire une émission entière sur la démocratie sans finir en vous donnant la parole. Si vous avez des questions dans la salle, levez la main, on va vous apporter un micro et on va le faire à l'ancienne, on va prendre une série de quelques questions, ok? Vous notez tous dans vos têtes les questions et ensuite vous y répondez, alors je vous fais confiance. Allez-y monsieur.
Bonjour, je m'appelle Grégoire, je suis habitant de Paris, dans le 11e. Vous parlez très bien, et merci pour vos enthousiasmes et vos super tables rondes, de la démocratie d'en haut, la démocratie institutionnelle qui a plein de progrès à faire pour être efficace sur les questions de gestion. Et il a été dit plein de belles choses. Il y a quand même plusieurs réactions qui représentent des mouvements, des jeunes, avec ou pas les bons chiffres. Il y a quand même la démocratie d'en bas, celle des cœurs, celle des valeurs qui nous inquiètent avec des voisins. Alors on mène des expérimentations en se disant qu'il faut aussi qu'on redonne le goût du collectif. Mmh. Donc on est un petit peu loin de ces processus qui ont tout leur mérite. Hein. Mais on se dit qu'en même temps, il faut qu'on ait cette action-là qui peut paraître modeste, qui d'ailleurs souvent est ridiculisée parce que les défis font peur et on a un souci d'efficacité qui amène souvent à penser que la convivialité, on n'a pas le temps, quoi. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive plus à discuter. On n'arrive plus à passer du bon temps, on n'arrive plus... Donc on se dit...
Est-ce que vous avez une question ?
Eh bien oui, j'aimerais votre réaction sur ça. Nous, on propose des expériences un peu avec les conseils de quartier, qu'on essaye de un peu avec une association de micro-villages, etc. Et en fait, ça marche. On réapprend par l'expérience à faire confiance, à discuter, à passer du temps. Et nous, on pense qu'on sème des choses démocratiques, mais souvent, on est considéré comme vraiment du divertissement un peu, on n'a pas le temps, quoi, voilà. Donc j'aimerais, vous qui êtes très engagé à ces hauts niveaux, entendre votre réaction sur ce petit côté, mais qu'on doit tous avoir dans nos vies.
Merci et bravo pour ce que vous faites, merci vraiment. On continue, est-ce qu'il y a une autre question? On fait passer la parole, il y a un monsieur juste devant là, hop, qui a levé la main, ouais.
Oui, bonsoir à tous, je vous remercie. Alors je me posais une question très sincèrement, puisqu'il y a eu des beaux débats, il y a eu des belles discussions. Mais ce qui revient souvent comme solution à une certaine crise de la démocratie, c'est remettre du local.
Ouais.
Aujourd'hui, à l'heure actuelle, la prochaine élection qu'on juge comme étant bon, l'élection, le juge de paix de la démocratie, c'est une élection qui est européenne. C'est des élections européennes. La question qui se pose, et que je me pose très personnellement, c'est à savoir si, à vouloir solutionner les questions démocratiques, par le local, on va devoir forcément laisser l'Union européenne de côté ? Ou est-ce qu'on peut réussir à trouver une solution à la crise démocratique tout en rendant aussi l'Union européenne beaucoup plus démocratique ?
Okay.
Merci beaucoup.
Merci pour cette question. Est-ce qu'il y en a une dernière ? Une femme, madame, ce serait super, merci. Une femme qui est juste là, si vous pouvez lui donner la parole. Et on prépare un tour de réponse et ensuite on va devoir conclure cette émission, même si on pourrait durer encore.
Une question très courte,
madame.
Promis. Certaines lois ont été changées parce qu'un certain nombre de citoyens ont dit non. Alors, on va penser par exemple au droit à l'avortement ou des choses comme ça. Donc ma question c'est, est-ce que la désobéissance civile fait partie de la démocratie ?
Ok.
Oui, bah oui. Je pense que
je vois des oui de la tête du côté de.
Je sens visé.
Mais on va en parler. Merci beaucoup pour cette question. Un tour de réponse. Bah tiens, on peut commencer par cette question-là, peut-être sur la désobéissance civile, Léna.
Mais oui, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ça quand on a été dissous. Bon, là, la dissolution est suspendue. D'ailleurs, on attend le délibéré final. Mais on estime qu'on a le droit d'exister en tant que mouvement de désobéissance civile et que c'est tout à fait sain dans une démocratie d'avoir ce mode de contestation. On ne peut pas se résumer qu'à ce qui est possible légalement. Et comme je l'ai dit, nos luttes, en plus, elles sont basées souvent sur des questions qui sont vraiment démocratiques, sur des communes qui sont fortement opposées à des projets et qui malheureusement ne sont pas du tout entendues dans le système politique institutionnel actuel. Et en effet, vous avez tout résumé, on n'aurait pas le droit de vote en tant que femme. S'il n'y avait pas eu de la désobéissance civile, il y a plein d'acquis sociaux qu'on a obtenus aussi via de grandes manifestations et via des actions qui n'étaient pas toujours légales. Donc pour nous, en effet, c'est essentiel.
Sur la question de la démocratie d'en bas dont vous parliez, monsieur, c'est une question intéressante. Qu'est-ce qu'on peut répondre à un citoyen qui se sent moqué quand il essaye, au niveau de son conseil de quartier, de son micro-quartier, d'innover ? Priscilla.
Ce que j'entends dans ce que disait monsieur, c'est le fait qu'il n'y ait pas tellement de succès lorsque des initiatives locales sont mises en place, que ce soit par les élus ou par les associations. Et je rappelle juste qu'on est dans un contexte de très grosse défiance des gens en général vis-à-vis des politiques et du système démocratique. Et si on repart des cinq principes qui sont censés faire notre démocratie, on ne peut pas parler uniquement d'un point de vue technique de ce qui fait la démocratie, mais aussi de d'autres volets, comme celui, alors si je prends le premier principe, l'un des cinq, l'état de droit et l'égalité devant la loi, où on voit que certains ne sont pas logés à la même enseigne, et du coup, ça fragilise sa confiance en un système si on considère qu'on n'est pas tous égaux devant la loi. Il y a le fait de voter pour des représentants, alors même que 18% des Français considèrent que les décisions politiques ont un impact négatif sur leur vie au quotidien. Comment faire confiance dans ce contexte-là et comment se rendre à des conseils de quartier si finalement la décision prise n'a pas d'impact positif sur la vie des gens. On peut parler aussi du système de vote qui, selon moi, est défaillant, mais selon plein d'autres associations aussi ou les experts. C'est quand même pas normal que dans la sixième puissance mondiale, on ait 3 à 5 millions de non-inscrits sur les listes de vote ou 6 millions de mal-inscrits. Toutes ces petites lacunes cumulées, ouais, font que le système il est défaillant et où les gens considèrent que la démocratie française est en danger. Je rappelle que sous l'ère Macron, je parle des deux mandats, on a été déclassé à deux reprises comme démocratie défaillante du point de vue de l'indice des deux économistes. Et si on ne s'attaque pas aux racines de ce qui fait la démocratie et si on n'ose pas la remettre en question, si on n'ose pas reconsidérer la manière dont on fonctionne, un autre des piliers, c'est le fonctionnement des partis politiques. On peut aussi questionner le fonctionnement des partis politiques, la représentativité au sein des partis politiques et donc la représentativité au sein des institutions. Et si tous ces sujets-là ne sont pas traités, je vois mal comment, d'un point de vue local, ça peut fonctionner.
D'accord. Changer la démocratie au niveau local, expérimenté très bien, mais quid du niveau européen ? Loïc Blondiot, et ce sera le mot de la fin.
Alors, le niveau européen, vaste programme. Ce sera très très compliqué, d'autant que ce qui s'annonce avec l'arrivée en force de l'extrême droite au Parlement européen est quand même assez préoccupant du point de vue de la démocratie. Notez qu'il y a quand même des expériences intéressantes. Il y a eu une conférence sur l'avenir de l'Europe avec des citoyens tirés au sort qui a réfléchi finalement à ce que pourraient être de nouvelles institutions européennes, et ça a produit des choses dans le vase clos de cette entre guillemets de cette démocratie européenne, mais qui est quand même d'un type très très particulier. Il y a un point qui me paraît essentiel dans ce qui a été dit et un aspect de cet effondrement de la démocratie dont on n'a pas du tout parlé, c'est la question des libertés. C'est-à-dire que la démocratie, c'est le fait de pouvoir décider sur un pied d'égalité, mais c'est aussi le fait de voir ces libertés individuel et collectif protégé. Aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est quand même à une forme de régression assez forte, à peu près dans tous les pays, mais surtout en France, de nos libertés, et nous ne faisons rien. Et donc, s'il faut que les gens se mobilisent pour obtenir plus de démocratie, il faut aussi que nous réagissions de manière plus ferme sur ce qui est en train de se passer au niveau du déclin de nos libertés. Alors, on n'a pas le temps de faire l'analyse de ce qui est en train de se jouer, toujours souvent au nom de l'urgence, au nom de la sécurité, au nom d'un impératif de sécurité, mais il y a une vraie problématique de déclin subreptice de nos libertés. Donc, il faut qu'on se mobilise pour la démocratie et pour préserver le peu qui nous en reste encore.
Merci beaucoup à vous cinq pour ces échanges absolument passionnants. Merci du fond du cœur pour ces discussions qui pourraient continuer encore longtemps. Et continuons-les, elles sont absolument passionnantes. Pour ceux qui sont ici à l'Académie du Climat, on va se retrouver à la buvette pour continuer à discuter. Merci à l'Académie du Climat de nous avoir accueillis dans ces murs.